Democracy stunk.
Democracy is fragrant.
Liberty stunk.
Yesterday.
Liberty is odious.
Free Spraken stunk.
Freedom of speech is objectionable.
Tomania has the greatest army in the world.
Tomania has the greatest army in the world.
The Kurocha Navy in the world.
The greatest
United
Navy in the world.
United States of America was suddenly and deliberately attacked.
But to remain great,
by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation. And at the solicitation of Japan.
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
I'm sitting on top of the world. I'm rolling along.
L'Europe.
Yes, rolling along.
L'Europe plie devant les régimes fascistes. Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne et Staline en Russie. Mais l'Amérique vit un âge d'or. 85 millions de spectateurs vont au cinéma par semaine. En 36, ils ont pu découvrir Charlie Chaplin triomphant dans les temps modernes et Errol Flynn dans les aventures de Robin des Bois en 38 et Clark Gable dans Autant en emporte le vent en 39. Trois films sur quatre projetés dans le monde est américain. Le cinéma est la huitième industrie du pays et son médium le plus puissant. En avril 36, la Hollywood Anti-Nazi League est fondée. Il dénonce les crimes du régime hitlérien. Le 9 décembre 1938, 56 membres d'Hollywood, dont James Kenney, Joan Crawford, Henry Fonda, Groucho Marx, Bette Davis, rédigent une déclaration of the Democratic Independence qu'ils envoient au président Roosevelt et au Congrès. Ils réclament la rupture économique avec l'Allemagne. En 39 sort Les aveux d'un espion nazi d'Anatole Litvak, le premier film de fiction ouvertement anti-nazi produit par un grand studio, la Warner Bros. Certes, avant, il y avait eu Hitler's Reign of Terror en 1934, I was a captive of Nazi Germany en 36 et le documentaire Inside Nazi Germany. C'est la guerre. Le rôle d'Hollywood sera important, déterminant même. Il encouragera la population à participer au financement de la guerre. Les plus grandes stars participent à des rassemblements populaires. Il y aura des productions de documentaires, de courts-métrages, de fictions propres à entretenir l'esprit patriotique. Les spectateurs doivent s'identifier avec le personnage qu'ils voient sur l'écran. Alors le message passera. Il faut des bons pour la guerre. Pour faire la guerre, le gouvernement doit réunir des fonds et sur un temps très court. Les impôts, évidemment, seront augmentés. Walt Disney signera deux dessins animés avec l'ami Donald Duck, The New Spirit en 42 et Spirit en 43, pour que chacun sache le devoir qu'il doit acquitter. Plusieurs emprunts d'État seront lancés entre 1941 et 45 auprès de la population, les appelant à consacrer 10% de leurs revenus à l'achat de bons de guerre.
Bye 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 a bond, and by the bonds you buy'll bring you victory. Bye 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 a bond, and you'll be standing by the victory arch when Johnny comes marching home again. Oh, you should need no request.
Ils rapporteront à eux seuls 185 700 milliards de dollars. Hollywood multiplie les actions. Vente de bons à chaque séance avec des films publicitaires, genre un peu les clips d'Abbott et Costello, le célèbre duo comique. Plusieurs stars comme Carol Landis, Jane Turner, Dorothy Lamour apparaissent sur des couvertures de magazines brandissant des bons de guerre. D'autres feront des ventes aux enchères. Le violon de Jack Benny, les bas de Betty Grable, les chaussons de danse de Ginger Rogers. Mais la plupart vont intervenir auprès du public, lors de grandes tournées, signant des dédicaces et offrant des spectacles. La Hollywood Victory Caravan en 1942, un train qui fera le tour des States avec Bob Hope, Gary Grant, Laurel et Hardy, James Caney, Bing Crosby, Groucho Marx et Claudette Colbert. Une tournée de 3 semaines, passage dans 14 grandes villes, rapportera 800 millions de dollars. En 1943, la Hollywood Band Cavalcade rapporte plus d'un milliard de dollars grâce notamment à Judy Garland, Mickey Rooney, Fred Astaire, Dick Powell, Lucy Ball et Betty Hutton. Il y aura même des courts-métrages sur ces tournées Hollywood Victory Caravan en 1945 avec Humphrey Bogart, Bing Crosby, Bob Hope and the All Star Band Rally en 1945 avec Bob Hope, Frank Sinatra et Betty Grable. Hollywood suit les conseils du ministère de l'information de la guerre, la OWI. Cela vous concerne, vous qui faites des films, car sur vos épaules repose pour une large part la responsabilité d'expliquer le programme, de dramatiser les besoins, de fournir l'inspiration qui alignera toute la population sur le front de la production. La tâche est urgente, elle est monumentale, elle a besoin de toute l'ingéniosité et de tout l'enthousiasme de l'industrie du cinéma. Plusieurs films seront faits pour rappeler le devoir de prendre un emploi de guerre. Tanks en 1942 ou The War Speeds Up en 1945 montrent l'urgence de la production d'armement et son lien avec la progression des alliés. Woman in Defense en 1941, écrit par Eleanor Roosevelt et raconté par Catherine Hepburn, tente de convaincre les femmes de prendre un emploi. En septembre 1943, une campagne de communication est réalisée par 3 magazines qui affichent une femme faisant un métier d'homme. Olivia de Havilland en mécanicienne de l'aéronautique, Lucy Ball en ouvrière, Dana Durbin en pompiste. Et même des petites starlettes inconnues. Ainsi, une certaine Norma Jean Baker sera découverte sur la couverture d'un magazine. Et celle-ci sera le début de sa carrière. On verra aussi le personnage de Rosie the Rivet, icône de la femme travaillant à l'effort de guerre, et qui fera même l'objet d'un long métrage en 1944 et interprété par Jane Frazee. Plusieurs films montrant le quotidien de la population, les regroupements des civils, la nécessité de partager leur logement, comme dans In the Meantime, Darling en 1944 d'Otto Preminger, Plus on est de fous en 1943 de George Stevens. Le dessin animé Scrap Happy Daffy de Frank Tasling avec Duffy Deck raconte en plaisantant la récupération des matières premières demandées par le gouvernement. Plusieurs stars, Alice Faye comme d'autres starlettes, se débarrasseront de leurs bas pour qu'ils soient convertis en parachutes. Le rationnement est abordé dans Rationing en 1944 de Willis Goldbeck. Le documentaire Farm Battle Lines en 1942 encourage les fermiers à augmenter leur production agricole. Économie d'essence et priorité aux militaires sur les réseaux ferroviaires, comme dans le documentaire Troops Train Is Your Trip Necessary en 1943. On surveille aussi forcément les airs en cas d'éventuel raid. Hugh John Jones en 1943 et Laurel et Hardy, chef d'îlot en 1943. Sans évidemment oublier la fameuse cinquième colonne, l'espion intérieur. Un américain pur sang en 1942 de Richard Thorpe et évidemment la cinquième colonne en 1942 d'Alfred Hitchcock. Il y aura même un court-métrage « Don't Talk » de Joseph M. Newman qui rappelle qu'il ne faut pas parler à la légère. Certes, mais il faut aussi former et informer. Le facteur temps est essentiel. Il faut former des soldats professionnels en un temps très court. Et le cinéma permet d'accélérer le processus éducatif de 30 à 40%. C'est la victoire de l'image. Les avantages sont multiples. Concentration optimale des élèves, dimension de divertissement, mémorisation des informations, efficacité accrue de la démonstration grâce à des effets techniques audiovisuels, gros plans, effets spéciaux, animations, etc. Chaque film est adapté aux besoins spécifiques des différents corps d'armée. Le service de transmission, Signal Corps, qui est en charge de la production cinématographique et photographique de l'armée, ne peut subvenir seul à cette charge. On fait appel à Hollywood, facturant à prix coûtant. Il crée l'Army Pictorial Service, capable de produire à grande échelle. l'APS. Elle assure entre Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, et la fin de l'année 1944, près de 1500 films. Lors du procès de Nuremberg, le feldmaréchal von Kittel, chef de l'état-major allemand, témoignera. Nous avions tout prévu, excepté la vitesse à laquelle les Alliés furent capables de préparer leur peuple à la guerre. Notre plus grande erreur fut de sous-estimer leur maîtrise rapide et totale de l'éducation par le cinéma. Le Signal Corp acquiert les anciens studios Astoria, ceux qui ont fait la gloire de Rudolph Valentino et des Marx Brothers à New York. Il devient alors le Signal Corp Photographic Center. La production est colossale, plus de 2500 films, plus de 1000 en différentes langues pour les Alliés. Films de formation entend préparer les soldats à toutes les situations. Règles d'hygiène, fonctionnement d'une arme ou d'un véhicule, premiers soins, techniques de combat rapprochées. Certains films sont même réalisés pour certaines missions, comme les courts-métrages « Tuer ou être tué », « Baptême du feu ». Les titres sont éloquents. Faites-leur clairement comprendre la nécessité d'apprendre maintenant et non pas lorsqu'ils seront sur le champ de bataille. Le but de tout cet entraînement, c'est qu'ils soient opérationnels pour tuer des Allemands et des Japonais. Il faut apprendre à tuer l'ennemi avant qu'il ne vous tue. Ne pas apprendre, c'est commettre une erreur fatale. Alors d'accord, il faut apprendre, mais il faut aussi maintenir le moral des troupes. Au début de 1942, on nomme à la tête de la Signal Corp l'un des plus grands réalisateurs du moment, Frank Capra. Il vient de remporter 3 Oscars de suite en tant que meilleur réalisateur. Et ceci à la demande de George Marshall, le chef d'état-major et futur créateur du plan Marshall. Si les films faits à l'Astoria expliquent aux jeunes recrues comment, Frank Capra expliquera pourquoi. Création de la production de Pourquoi nous combattons, série de films d'une heure chacun. Frank Capra a été marqué par le film de la triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, fait lors du rassemblement en 1934 à Nuremberg. D'ici quelques mois, nous aurons une énorme armée et il y aura un soldat professionnel pour 50 civils, explique le général Marshall. Nous pouvons penser quant à nous que c'est précisément en cela que réside notre plus grande force. Mais les hauts commandants allemands et japonais comptent énormément sur le fait que ce sera notre plus grande faiblesse. Le soldat allemand ou japonais a un idéal. Il se bat et meurt pour quelque chose de précis. La victoire du surhomme. L'avènement de l'empire. Les récompenses d'une telle victoire agissent sur lui comme un stimulant puissant. Comment pouvons-nous contrer ces surhommes? Les jeunes Américains et les jeunes gens de tous les pays libres sont habitués à agir et à penser par eux-mêmes. Ils se révéleront non seulement égaux, mais supérieurs aux soldats totalitaires si, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un si considérable, on leur donne des réponses quant à la question de savoir pourquoi ils sont en uniforme et si les réponses qu'ils obtiennent valent la peine qu'on se batte et qu'on meure pour elles. Et ça, Capra, c'est notre boulot et votre boulot. Capra fera appel à une équipe de choc. Anatole Litvak, qui est d'origine ukrainienne. Vous savez, le premier film ouvertement anti-nazi. Avec le scénariste Anthony Weiler. Le montage sera dirigé par William Hornbeck. Et la bande-son musicale par le compositeur Dimitri Tromkin. L'unité créée recevra le nom de 814e détachement. Et s'installera dans un studio vacant de la 20th Century Fox. Le premier film se nomme « Prélude à la guerre ». Le monde libre et le monde opprimé aux mains des régimes totalitaires. Roosevelt est enthousiaste lors de la première et veut qu'il soit montré au public. « Prélude à la guerre » sortira sur les écrans en octobre 1942. On montre ainsi la montée de Hitler et les débuts du conflit en Europe. Suivront la bataille d'Angleterre, la bataille de Russie, la bataille de Chine, les États-Unis entrent en guerre. Chaque fin de film finit par une citation du général Marshall. Il n'y a pas de compromis possible et la victoire des démocraties ne sera totale que lorsque les machines de guerre allemandes et japonaises seront entièrement détruites. La narration se fera par la voix de Walter Huston et les cartes animées se feront par les studios Disney. Ils feront évidemment d'autres films en collaboration, Le Soldat Noir en 1944, à l'attention de la communauté afro-américaine. Et puis sortira aussi Connaissez votre allié, connaissez votre ennemi.
Il y aura même des courts-métrages comiques avec cette fameuse recrue maladroite du nom de Snafu, dont les initiales signifient Situation Normal All Fact Up. La situation est normale, c'est le bordel. Évidemment, la Navy comme la Air Force ont aussi des studios et des techniciens avec des artistes issus de l'industrie du cinéma. Il s'agit d'abord d'attirer de nouvelles recrues. Winning Your Wings de John Huston avec James Stewart en 1942 et Men of Sky glorifie les pilotes. L'unité compte aussi dans ses rangs le fameux capitaine Ronald Reagan, futur président des États-Unis, et qu'on verra dans le film comment reconnaître un zéro japonais, puisque les pilotes américains avaient du mal à faire la différence entre leurs propres avions et le fameux Mitsubishi cher au dernier film de Hayao Miyazaki. En 1942 et 1945 sortiront près de 300 films. Mais la plus grande réalisation est une maquette de la côte sud de Honshu dans le cadre du projet 152. Longue de 24 mètres sur 18 de large. Et grâce à un effet de caméra traveling, ils peuvent calculer précisément le point d'impact. Le général Harold dira « Je n'ai jamais rien vu d'aussi efficace pour briefer des hommes avant une mission dangereuse. » Les stars sont aussi des hommes. À la fin de l'année 1944, plus de 1500 acteurs sont sous les drapeaux, dont une cinquantaine de stars. Alors oui, ils sont sous les drapeaux, mais les studios tiennent à leurs étoiles. Alors, pas question qu'ils aillent sur les champs de bataille. Rien ne serait pire qu'un acteur prisonnier. Certains assumeront des films de formation ou travailleront à la radio, comme Andy Lade, William Holden, Ronald Reagan, Robert Taylor ou Gene Kelly pour la Navy et Glenn Ford pour les Marines. Certains pourtant briseront leur chaîne, comme James Stewart, Tron Power ou encore Clark Gable, le King de Hollywood. James Stewart, le fameux Monsieur Smith, le 27 février 1941, il vient de recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour Indiscrétion de George Cukor. Salut les filles, et vous êtes toujours sur 105.5. RDWA aujourd'hui, Hollywood s'en va en guerre. Alors James Stewart est l'acteur fétiche de Frank Capra. Il est parmi les premiers acteurs à rejoindre l'armée bien avant Pearl Harbor. On vient de signer une nouvelle loi, la Selective Training and Service Act, qui rend obligatoire le service militaire entre 21 ans et 35 ans. James Stewart est tiré au sort en octobre 40, mais est refusé car il est trop maigre. Il fait appel et est accepté en février 41. Il sort d'une large, grande tradition familiale. Les grands-pères ont fait la guerre de sécession. Son père, la première guerre hispano-américaine en 1895. Et évidemment, la première guerre mondiale. James Stewart possède une licence de pilote civil. Il est donc intégré à la US Air Force. Il sort second lieutenant et poursuivra sa formation au Nouveau-Mexique. Il sort Winning Your Wings, où il joue son propre rôle. Il sera à l'origine de milliers d'engagements. Il travaille à la radio, qui est très populaire évidemment à l'époque. Il y aura même de nombreux reportages photos. Les militaires le cantonnent à l'arrière. Mais James Stewart n'est pas homme à se laisser faire. Il rejoindra l'Angleterre et effectuera plusieurs opérations de bombardement. Il sera chef de l'escadrille 703, à la tête de 24 bombardiers. Meneur d'hommes, il gagne le respect des équipages. Il mènera de nombreux raids, notamment sur Berlin, et sera nommé commandant. Il planifie la mission d'une cinquantaine de pilotes entre Munich et Troyes. Il obtient le grade de colonel et sera démobilisé le 29 septembre 1945. Clark Gable. Clark Gable est l'acteur le plus populaire de son temps et il est sous contrat à la MGM. Il sort de la gloire d'Autant en emporte le vent et de son mariage avec Carole Lombard. Alors, Clark Gable ne s'intéresse peu au fait de ce qui se passe dans le monde, ce qui n'est pas le cas de sa femme. Elle participe au film « Jeux dangereux » d'Ernest Lubitsch en 1941, comédie sur une compagnie polonaise sous l'occupation allemande et que je vous oblige à regarder car il est excellent. elle participera à la vente de bons de guerre. Elle obtient 2 millions de dollars lors de sa prestation à Indianapolis. À son retour, le 16 janvier 1942, son avion s'écrase dans une montagne du Nevada. Fou de douleur, et comme l'avait suggéré Carole Lombard dans son dernier télégramme, Clark Gable rejoint l'armée. Le général Arnold de la US Air Force l'encourage à devenir artilleur aérien. Il en fera d'ailleurs un documentaire. Le 12 août, notre King d'Hollywood s'engage comme simple soldat, à l'âge de 42 ans. Il rase sa si célèbre moustache. On le soustrait au regard public. Il sera lieutenant. Il s'entraînera sur un B-17 et sera promu capitaine. Il s'envole pour l'Angleterre. La radio allemande l'accueille avec sarcasme. « Bienvenue en Angleterre, poule mouillée de Hatcher, parmi lesquelles se trouve Clark Gable, la célèbre star de cinéma. On se reverra bientôt en Allemagne, Clark. » Hitler offre même une récompense pour la capture de la star. Et Clark de répondre « Si je tombe entre ses mains, ce fils de pute va me mettre en cage comme un gorille et m'exhiber à travers toute l'Allemagne. » Clark, pourtant, n'est qu'un instructeur. Il tourne certes son documentaire et il ne sera qu'observateur artilleur lors de nombreux bombardements sur la Belgique à Anvers ou en France à Villacoublay et même en Norvège. Le 12 août 1943, il passe près du drame. Son appareil est attaqué par un avion allemand. Une balle explose le talon de sa chaussure et lui frôle la tête. Son courage ainsi que sa simplicité fait l'unanimité au sein des jeunes recrues. Cependant, ses prises de risque énervent l'état-major. Il sera donc renvoyé au USA en novembre 1943 et il ne reverra plus les champs de bataille. Tyrone Power est le plus séduisant des Marines. Sa carrière s'envole à la fin des années 30. En 1939, il épouse l'actrice française Annabelle. Si elle s'engage à la vente de bons, lui va s'engager à la Navy. Il fera sa formation à la base de Quantico et comme James Stewart, il a une licence de pilote. Il obtient ses ailes à Corpus Christi au Texas. Mais il est déçu parce qu'on le cantonne au sol. Annabella, elle, par contre, part pour l'Europe. Elle va en Italie pour remonter le moral des troupes. Elle suit la 5e compagnie. 5e, pas la 7e. La frustration de Power est totale. Jusqu'au jour où on l'envoie dans le Pacifique. Il sera à bord du C-46 qu'il nommera Blitz Spirit. L'esprit s'amuse en référence à une pièce qu'a interprétée Annabella devant les GIs. Il fait des missions surtout de ravitaillement et d'évacuation des blessés. Il intervient à Iwo Jima et à Okinawa. Il collabore à la création de spectacles, mais après le largage des deux bombes atomiques à Hiroshima et à Nagasaki, il n'effectuera plus que des missions. En commentant des photos prises à Hiroshima, il dira à un ami « Ce n'est pas simplement l'effet que cela va avoir sur les Japonais et sur l'issue de la guerre. Cela va également nous affecter pour le reste de nos vies. Même si j'étais autorisé à te décrire ce spectacle, je doute que j'y arrive. Les mots sont impuissants. Cela dépasse l'imagination. » Mais il n'y a pas que lui à s'engager. Il y a aussi Jean-Pierre Aumont, David Niven, Douglas Fairbanks Jr., Robert Montgomery, Jane Kelly, Henry Fonda, Robert Taylor. Mais il faut aussi des films pour faire gagner la guerre. Entre 1939 et 1945, sur 3001 films produits par les 12 principaux studios, 1145 font référence au conflit. Nombreux, évidemment, sont des films de guerre. Mais il y a aussi des comédies, des drames, des films musicaux même. Leur fonction est certes de divertir, mais aussi de soutenir le moral des civils comme celui des militaires. Ces films suivent les directives de l'Office d'information de la guerre, vous savez, la OWI. Ils doivent insuffler l'esprit de sacrifice, le sentiment patriotique et souder l'Amérique autour de ses valeurs et de la confiance dans sa victoire. D'abord, il y a la promotion de la vie militaire. Ces films parlent peu du conflit européen, mais plutôt de l'enrôlement. Deux nigauds soldats, en 41, d'Arthur Lubin, avec les inévitables Abbott et Costello. L'engagé volontaire, en 41, de David Butler, avec Bob Hope. L'apprentissage des différents corps d'armée, comme l'armée de l'air, l'escadrille des jeunes, de Mitchell Leiser. Deux nigauds aviateurs d'Arthur Lubin avec, devinez, Abbott et Costello, Gianni Longo, Twingo. L'aéronaval, les ailes de la flotte de Lloyd Bacon en 1939, l'appel des ailes de Frank Borzage en 40, Drive Bomber en 1941 de Michael Curtis avec Errol Flynn. La Navy, deux nigauds marins d'Arthur Lubin avec, Abbott et Costello, again and again. Navy Blues en 41 de Lloyd Bacon encore. Les Marines, les rivages de Tripoli en 1942 de H. Bruce Herberstone. Les scènes de guerre évidemment sont absentes de ce film. Il y a aussi les amours de Cadet Girl en 1941 de Ray McCurry. Allez, mettez toutes les chances de votre côté avec les filles et devenez soldat. Après l'apprentissage, il faut évidemment aller sur les champs de bataille. Entre 1942 et 1945, Hollywood produit plus de 500 films de combat. Les gens, évidemment, doivent s'identifier aux héros. Cela inspire, évidemment, les nouvelles recrues et permet à la famille de savoir ce que devient frère, fils et père. Bien qu'ils font référence sur des événements réels, les films prennent beaucoup de liberté toutefois. Les sacrifices héroïques de nos soldats et de nos marins doivent être mis en avant. Agiter un peu plus le drapeau n'est pas suffisant, car derrière leur sacrifice, il y a un idéal. L'héritage d'une nation qui s'est construite grâce au dévouement d'hommes qui ont toujours été prêts, comme aujourd'hui, à mourir pour leur pays. Oui, glorifier ces héros, nous sommes fiers d'eux. Le régime des bagarreurs en 1940 de William Cayley, James Kenney, y joue un soldat lâche et qui est sur le point même d'être traduit en cour martial et qui prendra part à une mission suicide en mourant comme un héros. C'est beau. Sergent York en 41 de Ward Hawks. Gary Cooper y joue un fermier antimilitariste et pourtant il sauvera de nombreuses vies, notamment celle de ses camarades. D'ailleurs, ce rôle lui vaut un Oscar. En 1942, toutes les zones de combat sont représentées, mais c'est surtout le Pacifique qui est représenté, parce que l'attaque de Pearl Harbor a beaucoup choqué. Il faut se venger et rapidement, d'autant plus que les victoires japonaises s'enchaînent. Plusieurs films montrent la résistance héroïque mais tragique des soldats américains. La Sentinelle du Pacifique en 42 de John Farrow, Bahatan en 43 de Tay Garrett, Air Force en 43 de Howard Hughes. Et le premier raid sur le territoire japonais mené par le colonel James Doolittle le 18 avril 1942. Destination Tokyo 43 de Delmar Daves avec Gary Grant. Prisonnier de Satan de Lewis Millstone, 30 secondes sur Tokyo de Mervyn LeRoy avec Spencer Tracy. Les premières victoires sont aussi racontées, celles du raid victorieux des Marines du lieutenant-colonel Evans Carlson sur l'île de Mankin en août 42. Gang Ho, 1943 de Ray Enright. Guadalcanal de Lewis Sellers en 43. Il y a aussi le portrait des batailles navales et aériennes dans le porte-avions X d'Harry Hathaway et Bombardier en 43 de Richard Wallace, le cargo des innocents en 42 de Robert Z. Leonard. Alors, certes, ces films sont un peu truqués, car elles soulignent certes l'héroïsme des soldats, mais sans évoquer pleinement l'horreur de la réalité. On doit voir la mort de l'ennemi en gros plan. Les médecins et infirmières sont mis en lumière, comme dans Cry Havoc, en 43 de Richard Thorpe, Les Anges de Miséricorde, de Mark Sandrich, avec Claudette Colbert, Paulette Godard et Veronica Lake. L'Odyssée du Docteur Wassell, en 44 de Cécile B. 2000, avec Gary Cooper. Et le rôle film, d'ailleurs, tient une place importante dans ces films. Sabotage à Berlin et Aventure en Birmanie de Raoul Walsh, ainsi que notre cher ami John Wayne. Alerte aux Marines en 44 d'Edouard Ludwig, Retour aux Philippines d'Edouard Dimitrik, ou encore Les Sacrifiés en 45 de John Ford. Ils incarnent les héros de la guerre, version cinéma. On avait eu James Stewart, Clark Gable, sur le terrain. Là, nous avons l'image du soldat avec Errol Flynn et John. Ces films évitent de montrer la souffrance. Cependant, au fur et à mesure du conflit, les documentaires se font plus réalistes. Certains films évitent même le manichéisme hollywoodien, comme Les Forçats de la Gloire en 1945 de William Wellman avec Robert Mitchum, qui montre avec justesse l'infanterie durant la campagne d'Italie. Il y a aussi beaucoup de chansons, les fameuses Andrew Sisters.
Something swingadilla would be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charms. When you have a certain one you love in your arms, stepping out with you will be a sweet interlude. A builder-upper that will put me in the mood. In the mood. That's it, I got it. In the mood. Your ear will spot it. In the mood. Oh, what a hot hit. Be alive and get the jive, you've got to learn how. Hep, 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 hep like a heifer. Pep, 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 hot as a pepper. Step, 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 step like a stepper. We're mugging and hugging, we're in the mood now. This evening has done. Your feet were so heavy till they hardly could move. Now they're light as feathers and you're right in the groove. You were only hungry for some musical food. You're positively, absolutely in the mood. Sister, what you call a mom indebted to you. It all goes to show what good influence can do. Never felt so happy and so fully alive. Seems a jamming, jumping is a powerful jive. Sangaroo has given me a new attitude. My heart is full of rhythm and I'm in the mood. In the mood.
That's it, cause I got it and I'm
in the mood.
Your ear will spot it when you're
in the mood.
Ba-ba-dee-ba-ba-dee-ba-ba-ba-ba.
Be alive and get the jive, you've got to learn how. Hip, hip, hip.
Your hip like a heifer full of
pep, pep, pep.
Your heart as a pepper and you
step, step, step.
Step, step.
Mais il faut aussi rendre hommage aux alliés, comme les Canadiens dans Les Chevaliers du Ciel de Michael Curtis avec Jim Carrey, la police montée dans Du sang sur la neige en 43 de Raoul Walsh avec Errol Flynn. Et puis les versions cosmopolites avec Australiens, Américains, Écossais et Canadiens dans Sabotage à Berlin de Raoul Walsh, toujours avec Errol Flynn et Ronald Reagan. Anglais, Français, Américains dans Sahara en 43 avec The Zoltan Korda avec Humphrey Bogart. Les enquêtes d'opinion indiquent que le public américain a besoin urgent d'informations sur nos alliés. Voici quelques suggestions qui, savamment dramatisées, amélioreront notre compréhension de qui ils sont et du front que nous constituons avec eux. Nous avons eu écho du magnifique courage et des sacrifices de nos alliés par la radio et la presse écrite. Mais il reste des abstractions qui doivent être traduites en termes humains. Nous n'avons pas vu le fermier russe détruire ses champs et son foyer avant l'arrivée de l'ennemi. Nous n'avons pas vu le paysan chinois combattre avec un fusil d'un autre âge les tanks et avions japonais. Nous n'avons pas vu les membres de la guérilla yougoslave sacrifier leur famille plutôt que de pactiser avec la tyrannie. Mais nous pouvons les voir de manière dramatique et héroïque à travers le médium du cinéma. Nous pouvons voir chacun d'entre eux en tant que peuple, en tant que l'un des nôtres. Alors, il y aura des films sur la RAF, la Royal Air Force, hein, un Yankee dans la RAF d'Henry King avec Tron Power, l'International Squadron en 41 de Lewis Sailor avec Ronald Reagan. Et puis, il y a aussi le cas de la France. Le cas de la France qui est quand même soumise au régime de Vichy et qu'on voit clairement pointer du doigt dans Casablanca en 42 et Passage pour Marseille en 44 de Michael Curtis ou encore dans Le Port de l'Angoisse en 1944 de Howard Hawks. Ces trois films sont avec, évidemment, Bogart. La Marseillaise et le drapeau tricolore sont désormais l'hymne et l'étendard des combattants de la liberté. La communauté française n'est pas en reste. Elle apparaît dans des films. Jean Renoir réalise « Vivre libre » en 43. Léodine Magie, « Paris After Dark » la même année. Julien Duvivier, « L'imposteur » en 44 avec Jean Gabin. D'ailleurs, Jean Gabin et Aumont délaisseront bientôt les studios californiens pour s'engager dans les forces françaises libres. La Chine. La Chine qui, elle, depuis 1937, est en guerre contre le Japon, a payé un lourd tribut, notamment lors des massacres de Nankin. Chiang Kai-shek a rejoint la coalition alliée en 1941. C'est la résistance chinoise qui a accueilli d'ailleurs l'équipage du raid sur Tokyo du fameux lieutenant-colonel Doolittle en 42. On fait certes plus de références aux soldats américains, dans Les Tigres volants de David Miller en 42 avec John Wayne, Bombe sur Hong Kong de Robert Floret. La résistance est peu citée, et quand elle l'est, c'est avec les stéréotypes de l'époque. Et d'ailleurs, ils sont toujours joués par des occidentaux. Jane Turner dans La pagode en flammes en 1942 d'Henri Hathaway. Anthony Quinn en chef de guérilla dans China Sky. Seuls deux comédiens sortent du lot, mais dans des films de catégorie B ou Z, c'est selon. Le jeune Ducky Louie dans China Little Devil en 1945 de Montana Bell et la belle Anna May Wong dans La Dame de Chongqing en 42 de William Knight et Bomb of Burma en 43 de Joseph H. Lewis. Mais le plus grand film pro-chinois est Les Fils du Dragon de Jack Conaway et R.S. Bucket. C'est le seul film qui ne compte pas de personnages occidentaux. Et je dis bien de personnages occidentaux. Dans ce film, des paysans voient les Japonais arriver dans leur vallée. On voit leur dignité et leur courage à brûler leur récolte pour que l'occupant n'ait rien. Mais même la fin du film est pro-américaine. Cette vallée n'est pas le monde, c'est juste une partie du monde. Ailleurs existent d'autres gens comme moi, dont je ne connais pas le visage, des hommes qui aiment la paix et sont prêts à se battre pour elle. Ils ne sont plus pour moi des étrangers, mais des hommes qui me ressemblent. Si seulement je pouvais les connaître, si seulement je pouvais les rencontrer, ce soir je ressens un souffle puissant qui parcourt la terre et nous rapproche de cet hôte qui, autrefois, était un étranger. Une fin totalement américaine. Et d'ailleurs, les principaux rôles sont tenus par des Américains, Walter Huston et Catherine Hepburn, et même Turken Bey, qui est un acteur autrichien d'origine turque. On bride, on maquille, mais pas d'orientaux sur le devant de la scène. La Russie. La Russie, comment réussir la gageure de faire des films pro-russes dans un pays anti-communiste ? Ce n'est pas une mince affaire. La Russie fut longtemps le seul réel adversaire d'Hitler. Et désormais, il faut faire de Staline le joyeux et amical Uncle Joe. Alors, cela commence déjà par les beautés slaves. La doctoresse Alexandra Zorich de Bomber's Moon d'Edouard Ludwig. L'espionne Vera Menova de Miss V from Moscow d'Albert Umut. Ou la ballerine Nina Ivanovna de Jour de gloire de Jacques Tourneur. Figure inévitable d'amourette entre un Russe et un Américain. Certains films rendent courage aux soldats de l'armée rouge, The Boy from Stalingrad en 43 de Sidney Solko, ou Contre-attaque de Zoltan Korda. L'étoile du Nord de Lewis Millenstone, ce film montre des paysans ukrainiens leur mode de vie jusqu'à l'arrivée des nazis. Et c'est au champ de l'international, comble à Hollywood, qu'ils prêteront serment de lutter contre les fascistes. Comme dans Les Fils du Dragon ou La Croix-Lorraine, montrant la résistance française, on montre le sacrifice des paysans devant l'adversaire nazi. Jour de gloire montre une équipe de guérilla russe, mais cela aurait pu très bien se dérouler ailleurs. Mission à Moscou. Alors, Mission à Moscou en 43 de Michael Curtis et le point culminant de cette ferveur pour le frère russe tellement réussi que les frères Warner durent s'expliquer lors de la guerre froide devant la commission des activités anti-américaines, tant il fait l'apologie du régime stalinien. D'ailleurs, Staline même apparaît dans ce film et est admiré par les personnages. Il abonde en contre-vérité. David, le héros du film, fait un discours où il justifie le traité de non-agression entre Hitler et Staline en 1939 et l'invasion la même année de la Finlande par l'armée rouge. Un journaliste proposera même une amusante définition du film. Leur première production soviétique sortie d'un grand studio américain. Alors évidemment, on a des alliés, mais il y a aussi des ennemis. Le gouvernement veut que le public sache trois points. Qui est l'ennemi, leur objectif et leur stratégie. Le dictateur en 1941 de Charlie Chaplin est une claque terrible pour le régime hitlérien. Certes, l'action a lieu en Ottomanie et le dictateur s'appelle Adenoïde Hinkel, mais le public n'est pas dupe. La tempête qui tue de Frank Borzage avec James Stewart montre la montée de l'antisémitisme en Allemagne. Underground de Vincent Sherman montre deux frères qui vont faire un choix politique différent, l'un nazi, l'autre dans la résistance. I'm Married a Nazi d'Arvin Pichel montre une femme qui s'aperçoit que son mari est gagné par l'idéologie nazie et qui fuira vers les États-Unis. Dans un premier temps, ces films sont décriés par les mouvements isolationnistes. Mais l'attaque de Pearl Harbor fait voler en éclats cette polémique. Les Allemands et les Japonais seront désormais les méchants à l'écran. Et le public croit encore pourtant à une paix avec l'Allemagne. Il faut les conforter dans l'idée que la guerre est inévitable. L'officier allemand sera dans le film brutal et arrogant. Il deviendra le symbole du mal. Dans The Hitler's Madman de Douglas Sirk, on montre les représailles faites au peuple tchèque dans un village de Lidice après l'attentat sur le général Reinhard Heydrich. Fait rapporter aussi dans le film de Fritz Lang, les bourreaux meurent aussi, dont Bertolt Brecht est le scénariste. Une symbolique est mise en place. Bottes de cuir, cravache, ombre de Stavitska, officier portant monocle et un accent fort germanique. Comme George Sanders dans Chasse à l'homme de Fritz Lang ou Raymond Maissé dans Sabotage à Berlin. Les acteurs germanophones sont mis à contribution. Konrad Veidt, qui a fui l'Allemagne en 1933 suite à son mariage avec une actrice juive, adopte la nationalité britannique en 1939. Il jouera deux fois le chef d'un réseau d'espionnage installé aux US, dans Échec à la Gestapo de Vincent Sherman et Nazi Agent de Jules Dassin. Il sera aussi le major Strass de Casablanca, abattu par Bogart à la fin du film. Helmut Dantin, officier nazi face à Oerolfin dans L'Ange des Ténèbres de Lewis Middlestone et Du sang sur la neige de Raoul Welsch. Heinrich von Stroheim, le célèbre réalisateur du muet, joue le commandant allemand von Hofenstein dans La Grande Illusion de Jean Renoir durant la Première Guerre mondiale. Mais il jouera aussi en 1943 le docteur von Arden, qui saigne les enfants russes pour les besoins de l'armée allemande. Il sera le général Rommel dans Les 5 secrets du désert de Billy Wilder. L'acteur Robert Bobby Watson interprétera à 9 reprises le rôle d'Hitler, dont 5 durant la guerre. Il s'agit de ridiculiser le dictateur. Dans The Strange Death of Adolf Hitler de James P. Hogan, des dignitaires nazis enlève un employé de la mairie de Vienne pour lui faire subir la chirurgie esthétique pour en faire une doublure d'Hitler. The Devil with Hitler de Gordon Douglas. Hitler avec Mussolini et un diplomate japonais Sukiyaki forment un trio infernal qui ne cesse de se trahir. Daffy Duck dans Daffy's Commando en 43 donne une bonne leçon au Führer en lui assénant un terrible coup de maillet. Dans Der Führer Fake, c'est Donald Duck qui a le plaisir de lui jeter une tomate au visage. Les Japonais reçoivent aussi leur lot. La vengeance de Pearl Harbor résonne toujours. Les stéréotypes sont légion et bien sûr fortement racistes. Pas de personnalité propre et tous les Japonais se ressemblent. Et que dire des noms pour les désigner ? C'est d'ailleurs curieusement des Chinois qui joueront leur rôle. Richard Lou sera le général Mitsu du prisonnier de Satan ou le pilote Tokyo Joe de God is my co-pilot de Robert Flory. Mais les Japonais ne sévit pas que dans le Pacifique, il est aussi dans la cinquième colonne. L'ennemi intérieur, Remember Pearl Harbor de Joseph Stanley, Little Tokyo USA de Todd Browner ou l'agence secret of Japan Dervish Pichel. Ces films stigmatisent la communauté japonaise qui se verra enfermée dans des camps en plein centre des États-Unis, un comble pour les alliés défenseurs des libertés. Face au soleil levant d'Edward Dimitrik et bombardement de Richard Wallace, monte clairement la cruauté japonaise. Dans la séquence finale du prisonnier de Satan, on peut même entendre « C'est vrai que nous, les Américains, connaissons peu de choses sur vous, les Japonais. Mais nous réalisons que vous en savez encore moins sur nous. Vous pouvez nous tuer, mais si vous imaginez faire peur aux États-Unis d'Amérique et les empêcher d'envoyer d'autres pilotes pour vous bombarder, vous avez tort, mortellement tort. Ils viendront par milliers, le jour comme la nuit. Ils assombriront votre ciel et réduiront vos villes en cendres. Ils vous mettront à genoux et vous forceront à les supplier de vous épargner. C'est votre guerre, c'est vous qui l'avez voulu. Vous l'avez commencé et maintenant vous allez la voir. Elle ne sera terminée que lorsque votre sale petit empire aura été balayé de la surface de la terre. » C'est poétique. Certes, l'Allemagne et le Japon sont en train de tomber, mais ils font maintenir le moral des troupes. Roosevelt fait créer la United Service Organization. Ce sont des clubs pour les soldats, aux États-Unis comme à l'étranger. The American Theatre Wing à New York, qu'on voit dans le film Le Cabaret des Étoiles de Frank Borzage, accueille des soldats et de nombreux stars y font leur apparition, comme Country Denburn, Count Basie, Jack Benny, Harpo Marx ou Yehudi Menuhin, le violoniste. La côte Est ont créé le Hollywood Canteen, qui est inauguré le 12 octobre 1942. 3 millions d'hommes et de femmes en uniforme y passeront. Charles Lautner y récite les discours de Lincoln à Gettysburg. Y participent les Andrew Sisters, Bing Crosby, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Eddie Cantor, Spencer Tracy, Frank Sinatra, les orchestres de Kay Kaiser et de Duke Ellington. Et puis il faut aussi parler des pin-up, parce qu'elles sont centrales dans la vie des boys. De nombreux stars sont sollicités, Lauren Bacall, Vivian Blaine, Judy Garland, Andy Lamar, Dorothy Lamour, Donna Reed et bien d'autres. Mais les plus célèbres restent Betty Grable, dont on entend ici la chanson Pin-Up Girl, et Rita Hayworth.
You're my little pin-up girl, honestly you are.
How would you like some coffee, a donut, an apple, a candy bar?
Won't you be my pin-up girl? Give a guy a break.
The best that we can give you is cocoa, a cookie,
a piece of angel cake.
I have to have that smile before me, no matter where I roam.
We have some nice old-fashioned mince pie, like your mama used to bake back home.
Do I love my pin-up girl with all my heart and soul?
I'm sure I understand you, but I'm here to hand you a hot dog on a roll.
We surely understand you, but we're here to hand you a weenie on a roll. Weenie, meenie, miney, mo, who's the darling of the USO? Glory, Laurie, must be you. Tell us a story, Laurie, do.
Okay, I'll tell you one that's true. A boy sent his baby a note, and this is exactly what he wrote. Quote, honey, don't worry your head about those pin-up girls you've read about. For you most certainly know you're my little pin-up girl. Honestly, you are. To me, you have the grace of an angel, a face of a movie star. you're my little pinup girl. Though we are apart, when I'm in Sleepy Willow, you're Pindle, my pillow, and also in my heart. I have to have that smile before me, no matter where I roam. That twinkle in your eyes can warm me like a fireside at home. Do I love my pinup girl? Bet your life I do. So baby, keep a grinning. Remember, I'm pinning my hopes on you.
I have to have that smile before me.
Et puis, pour finir cette émission, toujours sur 107.5 RDY, je voudrais rendre hommage aux hommes de l'ombre qui ont filmé cette guerre atroce et mondiale comme jamais elle ne l'avait été faite avant. Beaucoup d'images en noir et blanc, des certaines en couleur, montrent comment le monde n'a pas tourné rond durant 5 ans. On a vu des familles sous les bombardements en Angleterre, des batailles sur tous les fronts, en Afrique, en Europe, en Asie, du Day D, le fameux jour du débarquement, jusqu'à la chute du Troisième Reich. Ces hommes devaient tenir une caméra au point, mais garder un fusil à portée de main. Certains sont célèbres, comme John Ford, celui qui a fait les raisins de la colère avec Henry Fonda, ou William Wyler, ou George Stevens, qui vont faire des documentaires qui deviendront des chefs-d'œuvre. Alors que la guerre semble sur le point de finir, Hollywood se tourne déjà vers le futur. Que va devenir l'Allemagne? Que sont devenus tous ces fanatiques adorateurs de Hitler? Et puis, il y a ceux qui reviennent, tous ces soldats qui ont vécu des expériences atroces, notamment dans le Pacifique. Till the End of Time d'Edouard Dimitrik avec Robert Mitchum montre la difficulté d'un John Marines qui revient chez lui. Les plus belles années de notre vie de William Wyler montre l'histoire de trois hommes, un soldat de l'infanterie, un marin et un pilote dans une petite ville du Midwest. On y voit apparaître Harold Russell qui recevra un Oscar pour son second rôle parce que cet homme avait perdu ses mains lors d'une explosion accidentelle sur le tournage d'un film de formation. Ce film recevra d'ailleurs 6 statuettes. Et puis, avec Hiroshima et Nagasaki, il y a aussi l'arme atomique. L'arme atomique qui va devenir une nouvelle angoisse. Et puis, ce frère russe. Ce frère russe qu'on a accueilli et qui deviendra le nouvel adversaire dans un monde bipolaire. Mais cela, c'est une autre histoire. Voilà, dont nous parlerons dans notre triptyque Hollywood, puisqu'il y aura sans doute une autre fois la liste noire, la fameuse liste et le macartisme qui vont faire de nombreux dégâts à Hollywood. Alors, nous allons passer à notre cher pestélisme, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, il y a quand même beaucoup de films cette semaine, du 12 au 18 mars. Il y a Les Amis Animaux de Eva Lindenstrom. Hein. Donc, trois petits courts-métrages, Une journée chez les oiseaux, Je fugue et Mon ami Louis. Alors, c'est des courts-métrages assez tendres et surtout très naïfs, hein, notamment dans le dessin. Beaucoup de pastels, d'aquarelles, pardon, et de papier découpé. Hein. C'est un parfait doudou visuel pour les très jeunes, les très très jeunes, hein, pour de 2 à 3 ans. Hein. Ensuite, Tante Hilda, hein, le dernier chef-d'œuvre sorti des studios Folimage de Valence, de Jacques Rémy et Jiréide. Je ne sais pas si j'ai bien dit son nom. Donc, Tante Hilda est une passionnée de la nature et qui sauvegarde dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Mais hélas, il y a en face une multinationale qui a trouvé le moyen de faire des plantes géantes et ainsi puiser de l'énergie malencontreusement, comme toujours dans les films. Quand on fait une expérience, ça se passe toujours très mal. Donc voilà, c'est un film pour les un peu plus grands cette fois-ci. Ensuite, il y a Pompéi, un Pompéi, le film, comment dire, grand spectacle de Paul W.S. Anderson avec Kit Harington qu'on a vu sous les traits de Jon Snow dans The Game of Thrones. Il y a aussi Trinity Kiefer Sutherland aussi. Hein. Voilà donc l'histoire de Milo qui était un esclave et qui va devenir gladiateur, qui va tomber évidemment chercher toujours la femme, comme je dis, amoureux d'une femme qui est forcément un amour interdit. Et là. Bien sûr, c'est à Pompéi, on est en 79 après Jésus-Christ, alors forcément, le volcan va se réveiller. Donc, c'est un mélange de 300, de gladiateurs, de 3, le film 3 avec Brad Pitt, mais version un peu tuilite parce que là, ça déborde de sentiments et d'amour, mais ça reste quand même un film grand spectacle, donc je pense que sur grand écran, ça va être assez fabuleux à voir, mais bon, voilà, si on veut se détendre les neurones, c'est le film à voir. Ensuite, il y a le film Diplomatie de Volker Schlöndorff, donc c'est un peu avec le thème d'aujourd'hui, donc avec André Dussolier, Neil Hallstrup,
Von Scholitz, qui est gouverneur du Grand Paris et qui a été ordonné par Hitler de faire sauter tous les grands bâtiments de Paris.
Il reçoit la visite d'un diplomate suédois, Raoul Nordling, qui va essayer de convaincre le général de n'en rien faire. C'est un peu Paris brûle-t-il en somme.
Cette nuit du 24 août 1944 n'est pas sans rappeler
la nuit de la Saint-Barthélemy qui l'a aussi a ensanglanté les rues de Paris le 24 août 1572. Et donc, entre ces deux hommes, le destin de Paris se joue. Donc, c'est un très 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 grand film qui est passé, hélas, un peu inaperçu. Et puis, il y a aussi le dimanche 16 mars en soirée, The Phantom of Paradise de Brian De Palma, en présence de Frédéric Mercier, donc qui est critique de cinéma à la revue Transfuge. Il y aura donc une assiette à 4 € en début de soirée à partir de 19h. Donc voilà, évidemment, Phantom of Paradise, qui est évidemment un remake hein, du fantôme de l'opéra, version évidemment kitsch, mais assumé, c'est un feu d'artifice d'images bariolées, baroques, et c'est vraiment un film culte par excellence. Moi, je vous l'invite vraiment à le voir, moi j'ai adoré. Alors voilà, ce film, il faut absolument aller le voir, Phantom of Paradise de Brian De Palma. Je pense qu'il aura certes un peu vieilli, hein. On a eu d'autres représentations depuis du fantôme de l'opéra, mais il a un cachet assez spécifique et voilà, il mérite évidemment d'être vu. Et bien voilà, nous terminons notre émission spéciale Hollywood 120 ans guerre. La semaine prochaine avec les filles, puisqu'elles seront de retour hein, de leur week-end de folie et des débauches, nous parlerons des films d'anticipation. Hein. Vous savez ce que c'est un petit peu l'anticipation, c'est pas vraiment de la science-fiction, mais c'est pas non plus un truc très réaliste, c'est un autre futur, si vous permettez cette image. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je rends l'antenne sur 107.5 RDIWA, et je vous propose, si vous voulez, de réécouter cette émission sur le site de Radio DIWA, le www.rdiwa.fr en broadcast, et ne pas oublier d'aller voir la page Facebook de Arrête ton cinéma. Et bien sur ce, je vous dis au revoir et puis surtout passez de bonnes journées. Le soleil est enfin de retour. Ciao ciao. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. The first rule of Fight Club is you do not talk about fighting. You talking to me? Freedom! Say hello to my new friend! I wanted to learn. Hey, no. Go ahead. Make my day. I don't go. Welcome to the party, pal! Are you not entertained? My face stinks, suck! Sweep the leg, boss.
was like a box of chocolates.